Retrouvez le journal d'Haïti et des Amériques, il vous est présenté par Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond et bonjour à toutes et à tous. Le Mexique et la victoire de la gauche. Andrés Manuel López Obrador remporte l'élection présidentielle avec 53% des voix. Il promet de lutter contre la corruption, problème numéro un selon lui, qui est la source de la violence dans le pays. A-t-il les moyens d'éradiquer cette corruption? On en parlera avec notre invité dans un instant, David Recondo, chercheur aux séries. Dans la revue de presse de Romain Le Maresquier, le Mexique à la une également, mais aussi le Nicaragua. Le week-end a été marqué par de nombreuses marches pacifiques, dont certaines ont encore une fois été réprimées par les autorités. Et puis on reviendra également avec vous Romain sur l'élimination de l'Argentine du Mondial. On pleure là-bas cette défaite face à la France, 4-3. C'était samedi dernier, douleur dans un pays où le football fait presque figure de religion. Bienvenue à tous.
J'ai 41 ans et 3 votes au compteur pour López Obrador comme président. Aujourd'hui, il a finalement gagné. L'émotion du peuple est immense. On pleure, on est plein d'émotions, tout ça.
C'est ma première élection, alors qu'ils réussissent et que le peuple mexicain s'unisse pour un vrai changement. Je trouve ça magnifique, comme si l'espérance revenait au Mexique.
AMLO ? AMLO, il va en finir avec toute la corruption qu'il y a au sein du pouvoir. Pour l'instant, les riches s'enrichissent toujours plus et nous, les pauvres, nous sommes toujours plus écrasés.
Voilà pour ces témoignages recueillis hier au Mexique par Alix Hardy après l'élection d'Andrés Manuel López Obrador à la tête du pays. Beaucoup d'émotions, on l'a entendu, et beaucoup d'espoir. Nous sommes en ligne avec David Recondo, chercheur au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, spécialiste du Mexique, où vous vous trouvez actuellement. Bonjour.
Bonjour, je suis dans. C'est une grande nouvelle, c'est une grande première sous plusieurs aspects ces élections. Une grande participation, plus de 60% des électeurs sont allés voter. C'était la grande, ce dont on n'était absolument pas sûr et ce qui pouvait faire complètement changer les résultats. Et la deuxième, c'est une participation très très forte et en faveur de López Obrador. Donc ce candidat qui a plus de 53% maintenant des préférences, du vote. Et il faut encore attendre le reste du dépouillement, mais c'est quand même très très clair. C'est un avantage de plus de 30% sur son premier rival, le candidat de la coalition gauche-droite. Alors c'est une coalition des partis de droite et de gauche traditionnels, on va dire.
David Recondo, cette ferveur que l'on a entendue dans la voix des électeurs, cet espoir immense, sur quoi porte-t-il exactement ?
Vous l'avez mis en avant là, avec cette petite interview aux gens juste au moment de l'annonce des résultats. Il y a cette corruption, cette attaque frontale déclarée par López Obrador à la corruption. Je pense que c'est un des grands arguments qu'il a fait gagner l'élection. Depuis qu'il y a eu une première alternance au niveau fédéral, les deux partis qui ont gouverné, c'était le PRI et le Parti Action Nationale, donc centre et droite, ont finalement pas fait grand-chose contre cette corruption-là. Donc là, il y a un terrain très favorable. Les inégalités, deuxième grand sujet qui a été mis à l'agenda dans sa campagne par López Obrador, un approfondissement des inégalités. Depuis très longtemps, et puis la violence et l'insécurité, troisième sujet de préoccupation pour les Mexicains. Donc là-dessus aussi, il y avait des prises de position très très claires de López Obrador.
David Recondo, on écoute à présent Andrés Manuel López Obrador, le vainqueur de cette élection au Mexique, qui s'adressait hier soir à ses partisans.
C'est la victoire de millions de Mexicains qui sont fatigués, qui en ont marre de ce régime de corruption, d'injustice et de privilèges, et qui ont décidé aujourd'hui de voter en faveur d'un véritable changement, une transformation. Et je vais m'y atteler, je vais agir et je ne vous décevrai pas.
Voy a cumplir, no les voy a fallar.
Voilà, Andrés Manuel López Obrador hier soir. Je vais réagir, je ne vais pas vous décevoir. Ce vainqueur qui a dit qu'il voulait tout nettoyer de haut en bas comme un escalier. Comment vous réagissez à cela, David Recondo ?
C'est ce qu'attendent les électeurs, mais c'est aussi très très compliqué. C'est très compliqué. Alors on pourrait dire que d'une part, López Obrador a à son avantage une forte majorité pour l'instant, pour ce que l'on en sait, au Congrès. Et donc ça devrait aider, hein, n'est-ce pas, un gouvernement avec un vote aussi élevé en sa faveur, une majorité claire au niveau parlementaire. Il a déjà quand même énormément d'éléments pour pouvoir contrôler la corruption. Mais par ailleurs, énormément de corruption a lieu dans les niveaux plus bas, notamment municipaux. Et là, il n'a pas une majorité garantie du tout, et c'est près de 2500 communes, hein, les municipios mexicains, et c'est là qu'il y a des relations très complexes avec toutes les mafias, le crime, et puis tout ce qui est utilisation de la rente publique, puisqu'il y a une décentralisation très très forte depuis quelques années, qui fait qu'il y a énormément d'argent qui afflue vers les caisses des communes. Donc là, et puis il y a un autre élément, c'est qu'il n'y a pas du tout de précision de la part du candidat pour l'instant, hein, sur le dispositif qu'il va mettre en place pour lutter contre la corruption. Donc il y a une vision très verticale, c'est le président, lui, incorruptible, va mettre en ordre et va avoir une volonté de faire pour lutter contre la corruption, mais on n'en connaît pas encore tout à fait les moyens, les méthodes qui vont être mises en œuvre.
David Recondo, l'autre volet de ce scrutin, c'était aussi l'élection des gouverneurs, avec là aussi des enjeux importants. La gauche a obtenu un succès régional, avec au moins 6 postes de gouverneurs sur les 9 en jeu. Est-ce que cela ne va pas aider ce président, justement, à asseoir son pouvoir sur ces régions et pouvoir lutter contre cette corruption endémique ?
Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est à un niveau clé, celui des gouvernorats, celui des gouverneurs. Il y en a 32, si on inclut le gouvernement de la ville de Mexico qui passe aussi dans les mains de Morena, du parti López Obrador. Donc c'est vrai qu'il est là aussi assez bien positionné avec ses probablement 6, encore qu'on n'en soit pas sûr, hein. Pour l'instant on peut être sûr sur 5 états fédérés, bon 4 états fédérés et la ville de Mexico. Alors ça aide énormément. Il a, pour le reste, hein, qui n'est pas dans les mains de son parti, pour le reste des gouvernorats, on peut compter sur son habileté à négocier. C'est un politicien, un bon politicien qui sera, il est très pragmatique, qui sera certainement établir de bons rapports avec les autres gouverneurs, notamment les convaincre d'être moins corrompus et de lutter contre la corruption, avec toute une négociation autour des fonds qui sont décentralisés, hein, qui sont transférés du gouvernement fédéral vers les États fédérés.
La gauche au pouvoir au Mexique, c'est donc quelque chose de nouveau, de relativement nouveau pour ce pays. Est-ce que AMLO va réussir à dialoguer avec les autres partis qui étaient au pouvoir jusque-là ?
Oui, alors c'est toujours sur cette question de gauche-droite qu'il faut être un peu prudent. AMLO, oui, il représente la gauche sur bien des questions, notamment celui de la lutte contre les inégalités, la pauvreté, une plus grande intervention de l'État dans l'économie, un certain souverainisme, hein, renforcer l'économie, le marché intérieur, pour essayer de limiter la dépendance vis-à-vis des importations, des investissements directs, notamment en provenance des États-Unis. Mais sur d'autres questions, il n'est pas forcément positionné sur à gauche, hein, sur des questions sociétales. Il n'est pas plus à gauche que les autres, hein. Il est même peut-être moins à gauche que d'autres candidats, notamment ou d'autres partis, hein, disons le PRD notamment, qui était la gauche traditionnelle depuis les années 80 ici. Donc, je le caractériserais plutôt par ses origines, hein, sa trajectoire politique, comme quelqu'un de pragmatique. Il va être intraitable sur la question de la corruption. Il va mettre énormément l'accent sur la lutte contre les inégalités et contre la pauvreté. Sur les autres questions, il pourra être tout à fait flexible, et je pense qu'il n'aura pas de mal à établir des dialogues constructifs avec les autres, les dirigeants politiques issus d'autres partis.
David Recondo, je reviens tout de même sur cette différence gauche-droite, mais plus à l'échelle du continent, puisqu'on voit que la droite domine maintenant sur ce continent. Est-ce que là, le Mexique prend un autre virage ou pas ?
Ben oui, le Mexique est toujours un peu à contre-temps vis-à-vis du reste de l'Amérique latine. Et donc c'est le cas de nouveau aujourd'hui. Il était plutôt des gouvernements à droite pendant que le reste de l'Amérique latine virait à gauche, et puis maintenant on a un peu l'inverse. Alors Je relativise une fois de plus sur ces questions de gauche, notamment pour la différencier de, d'autres courants de gauche ou d'autres gouvernements de gauche d'Amérique latine. Il a été comparé parfois, souvent par ses rivaux, à López Obrador, à Chavez. Et rien à voir, absolument rien à voir de ce point de vue-là. On a quelqu'un qui est un nationaliste, qui est, j'insiste, à gauche sur des questions sociales, mais sur d'autres questions, il n'est pas forcément à gauche, et notamment aussi, il a une relation plus complexe que ne l'aurait eu, que l'ont eu les gouvernements de Chavez et de Maduro vis-à-vis des États-Unis. Alors, là aussi, une certaine prudence, c'est-à-dire une position très dure vis-à-vis des questions de la migration notamment, et oui, une proposition de négociation qui soit plus équitable pour le Mexique de l'accord de libre-échange, hein, l'ALENA, mais pas de rupture, pas d'opposition frontale, pas de conflit, disons, avec les États-Unis, vers, qui est quand même la destination de plus de 80% des exportations du Mexique. Donc, je pense que ce virage à gauche, il est très relatif, du point de vue notamment des relations avec les voisins, et notamment les voisins du Nord.
Merci beaucoup David Recondo pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre de Recherches Internationales de Sciences Po, spécialiste du Mexique. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes là pour la revue de presse des Amériques. À la une, bien sûr, la victoire historique incontestable de la gauche au Mexique après deux échecs consécutifs. Andrés Manuel López Obrador a été élu avec près de 30 points d'avance sur son premier poursuivant. Une victoire qui est omniprésente dans la presse mexicaine, Romain.
Oui, avec un mot qui revient sur presque toutes ses unes, réconciliation. C'est le mot lancé par Andrés Manuel López Obrador lors de son discours prononcé la nuit dernière sur la place du Zócalo de Mexico. Et l'un de ses grands objectifs, unir les Mexicains. D'ailleurs, les photos qui accompagnent ce mot sont presque toutes les mêmes. On y voit Andrés Manuel López Obrador à la tribune en train de prononcer ce fameux discours.
Romain, alors qu'il est, les quotidiens mexicains n'ont pas encore mis en ligne leur éditorio. Du coup, quelle est la réaction à l'étranger? Est-ce que cette victoire a été saluée?
Alors, aux États-Unis, par exemple, les deux principaux quotidiens nationaux, le Washington Post et le New York Times, ont tous deux mis en une grande photo d'Andrés Manuel López Obrador avec en titre « La gauche s'impose à Mexico ». Une victoire qui a été saluée par Donald Trump sur les réseaux sociaux, détaille le New York Times. Félicitations à Andrés Manuel López Obrador qui devient le prochain président du Mexique, a-t-il écrit, avant d'ajouter « Je suis prêt à travailler avec lui, il y a beaucoup à faire pour le bien à la fois des États-Unis et du Mexique. Et du travail, il y en a », estime le quotidien, avec les dossiers du mur à la frontière avec le Mexique, la question des migrants, la lutte contre le narcotrafic et les cartels ou encore la renégociation du traité de libre-échange nord-américain.
On en parlait avec notre invité, un traité qui doit être négocié avec le Canada également. Et pour Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, la victoire d'Andrés Manuel López Obrador lui permet de gagner un allié précieux, Romain.
Oui, le Premier ministre canadien a tenu à féliciter chaleureusement López Obrador par communiqué de manière plus officielle, détaille le quotidien mexicain Excelsior. Le Canada et le Mexique sont des amis proches et des partenaires de longue date. Nous sommes unis par des objectifs communs et de forts liens entre nos populations. Nous entretenons une relation commerciale mutuellement profitable qui fait l'envie du reste du monde. Nos efforts communs visant à mettre à jour l'accord de libre-échange nord-américain pour le 21e siècle en sont la preuve, peut-on lire. Un message qui en dit long sur les espoirs que suscite cette élection dans l'optique de la renégociation de ce traité. Plus largement, l'ensemble des dirigeants sud-américains ont tenu à féliciter chacun à sa manière cette première victoire de la gauche au Mexique.
Alors, on part maintenant au Nicaragua à l'image de ce qu'il se passe depuis maintenant plus de deux mois. Le week-end a été marqué, Romain, par de nombreuses marches pacifiques, dont certaines ont encore une fois été réprimées par les autorités.
Oui, c'est-à-dire dans les colonnes du quotidien Hoy, hier, plusieurs marches étaient organisées dans différentes localités du pays. À Managua, la capitale, plusieurs milliers de personnes défilaient sous le slogan « Managua n'oublie pas, le Nicaragua ne se rend pas ». Une marche qui a été visée par des paramilitaires qui ont blessé l'une des personnes qui encadraient le défilé. De peur que cela ne dégénère en une confrontation, le cortège a changé de direction, ce qui a permis d'éviter plus de victimes, selon Raquel, une manifestation manifestantes interrogées par La Prensa. Raquel qui estime que cette répression des autorités démontre la peur qui habite désormais le président Daniel Ortega, qui a perdu le soutien du peuple. D'autres marches étaient également organisées, notamment à Tipitapa et Jinotega, des manifestations qui ont été plus durement réprimées, selon La Prensa. Enfin, sachez, comme le rappelle également le quotidien La Prensa, que samedi, 14 grandes marches avaient été convoquées dans l'ensemble du pays, un mois après le massacre de la fête des mères qui avait coûté la vie à 23 personnes.
Romain, avant de se quitter, un mot de l'Argentine qui pleure l'élimination de l'Albicéleste de la Coupe du Monde de foot samedi dernier face à la France.
Oui, et le réveil après ce cauchemar est douloureux, comme en témoigne la une du principal quotidien sportif argentin Olé. La sortie est par ici, titre le journal qui espère que le sélectionneur Jorge Sampaoli démissionnera, ce que ne souhaite pas faire pour l'instant l'intéressé. Sampaoli est animé par un sentiment de revanche et veut continuer l'aventure à la tête de cette sélection, détaille le quotidien Clarín. Mais le pays réclame son départ, précise La Nation. Sauf qu'un limogeage du sélectionneur par la Fédération argentine n'est pas d'actualité, prévient Clarín, car en cas de renvoi, la Fédération devrait verser 20 millions de dollars à cet entraîneur, une fédération qui est aux abois financièrement, précise le quotidien.
Enfin, pour clore ce point sur la Coupe du Monde, rapidement, le Brésil, lui, se prépare pour la rencontre face au Mexique, Romain.
Oui, une affiche qui fait la une, bien entendu, de tous les grands quotidiens du pays. Et la grande question que l'on retrouve en une de Globo est: est-ce que Neymar va briller comme l'ont fait Mbappé et Cavani lors de leur huitième de finale? Le Brésil qui espère que sa star va enfin prendre son envol cet après-midi.
Merci beaucoup Romain Lemaresquier pour cette revue de presse des Amériques.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est l'heure de retrouver le journal La Première Caraïbe, présenté aujourd'hui par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
Et à la une aujourd'hui, en Guyane, la commune de Mana s'apprête à accueillir une centrale solaire à hydrogène qui sera la plus puissante au monde dans sa catégorie.
Oui, Mana, c'est une vaste commune de plus de 6300 km² située à l'ouest de la Guyane, pas très loin de Saint-Laurent-du-Maroni. Et l'infrastructure qu'une société française va y installer pourra fournir de l'électricité à plus de 10 000 foyers. Jocelyne Elgouache.
C'est un projet révolutionnaire et écologique qui doit voir le jour sur la commune de Mana, dans la région de Sossaba, d'ici moins de 3 ans. Une centrale électrique solaire à l'hydrogène, le plus gros stockage d'énergie renouvelable au monde. Un projet porté par le groupe français HDF Energy. La centrale créera une centaine d'emplois. Le chantier doit démarrer à l'été 2019 pour une mise en service fin 2020. Et le groupe français compte investir 90 millions d'euros dans cette centrale solaire. Une centrale qui sera la plus grosse batterie géante au monde, fonctionnant uniquement à l'eau et au soleil. Le soleil de Mana qui va contribuer à éclairer d'ici 3 ans plus de 10 000 foyers de l'ouest guyanais.
On change totalement de sujet avec le grand retour de la banane jeune. Comprenez la banane plantain sur les étals des marchés de la Guadeloupe. La production n'avait évidemment pas résisté l'an dernier au passage de l'ouragan Maria. Du coup, les premiers fruits à réapparaître dans les champs ont fortement attiré ceux qui n'aiment pas beaucoup planter mais aiment bien récolter. Vous avez compris que je parle des voleurs. Radji Perianin, agriculteur à Petit-Bourg, a été la victime de ces visiteurs nocturnes. Il raconte au micro de Josiane Champion.
La rareté de la banane plantain en Guadeloupe a eu un effet sur le prix. Donc du coup, on subissait régulièrement des vols et on avait des pertes de 2-3 régimes par soirée. Et quelquefois, il y a des agriculteurs que je connais qui ont perdu 10-15 régimes en une soirée. Au mois de mai, les premières bananes plantain arrivaient sur le marché. Et donc, vu que les prix étaient élevés, c'était 2,50 € environ, prix de gros, le kilo. Et donc, c'était problématique dans la mesure où il fallait surveiller les parcelles pour ne pas perdre trop de régimes. On sait que la perte est inévitable, mais il ne faut pas perdre quand même plus de 20% de la parcelle.
Vous, comment vous vous êtes organisé justement contre ces vols?
On faisait des rondes nocturnes avec les collègues pour voir s'il y avait du mouvement autour des plantations. Donc c'était juste un système dissuasif. On n'a pas cherché à surprendre des gens sur le fait. Donc on ne voulait pas qu'ils viennent dans les plantations.
Mais ils sont venus quand même?
Eh bien oui, mais ponctuellement. Ils ne sont pas venus avec des voitures. Ce n'était pas une structure organisée. Mais si quelqu'un vous prend 10 régimes dans une soirée, c'est quelqu'un d'organisé.
Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, pour ces nouvelles d'Outre-mer. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Alice Ménard à la réalisation de cette édition. Merci à l'équipe du Service International et du Desk Amérique qui m'aide tous les jours à préparer cette édition spéciale Amérique et Haïti. N'oubliez pas notre page Facebook, le journal d'Haïti et des Amériques. Également notre site internet www.rfi.fr. Restez avec nous dans quelques instants. Un point sur l'actualité.